Solaire au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mercredi 29 janvier 2025 et nous serons en direct de 20h à 21h. Le replay sera disponible, lui, dès demain sur le site internet de Radio Galère. Dans cette émission « Et si on s'écoutait ?», nous recevons aussi bien une personne qui, par son chemin de vie, explore sa relation à l'écoute, ou un acteur de société qui œuvre pour l'écoute dans la société et le bien-vivre ensemble. Il peut s'agir d'un acteur culturel, artistique, associatif ou même sportif. L'idée est d'illustrer, par l'action, ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue dans la société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde d'aujourd'hui. Je suis Marie Milsan et avec Chloé Landers, nous animons cette émission. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Avec Sidi en régie. Aujourd'hui, nous recevons Younes Boukili, fondateur du groupe Secousse. Bonsoir Younes, est-ce que tu vas bien ?
Salut, ouais, je vais super bien. Très heureux d'être là. Merci pour l'invitation, c'est super.
Avec plaisir. J'aimerais un petit peu poser le contexte. C'est l'été, on est à Marseille, les soirées sont longues, l'air est chaud, le cœur est à la fête et à la musique, et je décide de sortir avec des amis au couvent Levas, dans le 3e arrondissement de Marseille, pas loin d'ici. Je ne sais pas du tout quelle est la programmation, mais généralement ça me plaît, et puis l'ambiance y est chouette, on y boit des coups et on y mange des frites maison. Et là, bim, un concert commence. Des percussions en tout genre, un chef d'orchestre, qu'on appellera directeur, mais je laisserai Younes vous expliquer tout ça, et une énergie dingue et incroyable. C'était Secousse, en direct. Ce groupe de percussionnistes professionnels spécialisés dans le rythme signé, un système de composition instantanée, basé sur la direction gestuelle, un langage créé en Argentine par Santiago Vázquez en 2006. L'été se passe et la rentrée arrive, et je décide de faire des portes ouvertes de quelques cours, tout en me disant que cette année, allez, j'arrête d'en faire trop, je me modère. C'était avant de tomber sur le cours de rythme signé que propose Younes. Il a fallu d'un seul cours et ça y est, impossible de m'arrêter. Et nous voici à l'antenne avec toi Younes et nous sommes ravis de t'accueillir pour cette première édition de l'année 2025, première émission de l'année de 2025. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci
avant
à vous.
De commencer.
Et oui, avant de commencer cette émission, on demande à chacun de nos invités ce que inspire le titre de notre émission et si on s'écoutait. On te la pose donc ce soir. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors, et si on s'écoutait, ça m'inspire la chose la plus importante en musique, à savoir le silence. Sans silence, il n'y a pas d'écoute. Et sans écoute, il n'y a pas de dialogue. Donc, le silence, mais le silence actif quelque part. Pour pouvoir écouter l'autre, il faut avoir une écoute active, pour pouvoir répondre. Voilà ce que ça m'inspire. Ça, pour pouvoir avoir de l'écoute, il faut d'abord savoir apprécier le silence. Et je terminerai sur le... Miles Davis, qui est un des plus grands compositeurs, disait que la plus belle musique, c'est le silence, et les notes ne font qu'entourer ce silence.
Mmh, trop beau. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette phrase. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter qui tu es, Younes, ton parcours, d'où tu viens, tes envies et tes projets qui t'ont mené jusqu'ici, avec nous?
Ouais, ça c'est vaste, hein.
Et on n'a qu'une heure.
Ok, non mais bon, bah, je m'appelle Younes, vous me prenez un peu de cours, qui je suis.
Oui, tu peux choisir la manière que tu souhaites pour te présenter.
Super.
Ce que tu as envie de nous délivrer ce soir.
Voilà, moi je suis Younes, passionné par la percussion et le rythme signé, cet outil de composition que Marion a très bien présenté.
Et t'as vu ça?
Je vois que ça a bossé, hein. C'est cool ça.
Fallait.
je viens de Belgique. Bon, je suis né au Maroc à la base. Je suis arrivé en Belgique à 6 ans, puis j'ai grandi en Belgique. Et je suis arrivé à Marseille depuis 2 ans pour monter ce projet de percussion et rythme signé. Voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai un peu voyagé, puis j'ai fait plein de boulot, mais j'ai toujours été passionné par la musique, et j'ai toujours fait un peu de musique depuis que je m'en souvienne. J'ai commencé la scène vers 19 ans, et puis j'ai joué avec plein de monde en Belgique, et puis j'ai produit des spectacles, j'ai eu un café, on a fait des concerts pendant une dizaine d'années. C'est là que j'ai fait mes premiers pas de production, produire des groupes. J'avais un groupe et un endroit, du coup ça a fonctionné. Et puis j'ai tourné pas mal avec d'autres groupes, puis j'étais animateur jeune aussi. et dans un mouvement militant. Et dans ce parcours-là, j'ai rencontré le rythme signé, un stage à Liège. Et puis j'ai été intrigué, j'ai été en fait d'abord épaté par la portée pédagogique du langage. Je trouvais ça assez fou de pouvoir composer de la musique avec des gens qui n'ont jamais fait de musique en 20 minutes d'explication, quelques signes, quelques pas, et puis boum, la magie opère. Et la musique prend forme et on a envie de danser. Et ça, c'est incroyable. J'avais fait beaucoup de musique avant, mais je n'avais jamais trouvé un langage aussi immédiat, avec une portée pédagogique aussi immédiate, quoi. Et puis après, j'ai vu le côté professionnel du rythme ciné en découvrant le groupe Sismo en Belgique. Et j'ai été bluffé par là où ça pouvait nous emmener, quoi, avec des musiciens professionnels, jusqu'où on pouvait aller. Donc voilà, puis je suis arrivé à Marseille avec ma compagne qui s'appelle Katou et ma petite fille qui s'appelle Talia, il y a 2 ans, en voiture, pop, 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 avec plein de percussions dans la voiture pour développer le projet de percussion rythme ciné. Je connaissais une personne à Marseille qui devait partir 2 mois après, qui s'appelle Margot Bélanger, qui est partie au Portugal, qui développe le rythme ciné au Portugal. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens incroyables qui m'ont aidé dans mon parcours ici. Je pense d'abord à Sean de Mouleketou, qui avait une batucada, qui m'a dit « Ah, tu veux faire des ateliers de percussion au rythme ciné ? Mais moi, j'ai une école de batucada, viens le faire chez moi. » Puis il m'a mis à disposition ses élèves, ses profs, son local pour faire mon premier atelier. Puis j'ai commencé à développer ça petit à petit. J'ai fait des ateliers découvertes pendant 6 mois à la Fabulerie. Voilà, atelier découverte à prix libre à la Fabulerie, puis il y a des associations qui sont venues, ça a bien fonctionné, chaque atelier avait 20-25 personnes, des assos sont participés aux ateliers, puis ils m'ont proposé de donner des cours dans leur asso, donc j'ai fait des stages pendant l'été avec des jeunes de percussion et rythme signé. Chaque personne qui rencontre le langage est assez bluffée par la portée immédiate du langage. Voilà, après 20 minutes, on fait des compos qui groovent, ça joue. La percussion, il y a un rapport très immédiat avec la percussion. Tu tapes dessus et ça sonne. Il n'y a pas besoin d'être un musicien professionnel pour faire sonner une percussion. Donc c'est assez immédiat. Puis la vibration, quoi. La vibration, elle rentre dans le corps, elle parle à tout le monde, elle fait communiquer les gens. Il y a un rapport à l'écoute très important et au silence très important dans la composition instantanée. On compose ensemble, il ne faut pas jouer tout le temps. Il faut jouer un peu, écouter l'autre, mettre des silences dans son jeu, voir ce qui se passe, écouter ce qui se passe, réagir, interagir. Et puis la magie se crée. C'est assez, c'est
il
assez
a répondu
fou.
À toutes mes questions. Comment,
ah,
là
c'est vrai.
T'as tellement bien expliqué que
désolé.
C'était ça. Non, mais c'est très bien.
Vous m'avez bluffé. Enfin, j'étais pas prêt alors. Hein. Du
c'est
coup,
toi
j'ai
nous
tout
bluffé.
Balancé. Quoi.
Non, c'est bien, c'est bien. Mais d'ailleurs, moi, donc, la question que je me posais, c'est est-ce que t'as toujours su que tu voulais être dans la musique déjà, quoi? Tu voulais travailler dans la musique?
Non, non, parce que j'ai fait plein de choses avant. J'étais cuisinier,
ah bon,
j'étais barman, puis tenancier de café, puis animateur jeune. Mais j'ai toujours fait de la musique depuis en tant qu'amateur. Vers 18-19 ans, j'ai commencé à avoir des projets un peu sérieux avec des musiciens professionnels. Mais moi, je n'ai jamais été professionnel, jamais étudié la musique. J'ai toujours une chouette énergie, un engouement pour tous les projets dans lesquels je rentre. Du coup, j'essaie d'entraîner les gens avec moi, de porter les projets, de les produire, de trouver des concerts. J'ai une facilité sur la scène. Du coup, je parlais beaucoup avec le public, ce qui m'a donné une certaine aisance, une légitimité sur la scène par rapport aux musiciens professionnels avec qui je travaillais. Mais je n'ai jamais pensé travailler dans la musique. Puis j'ai rencontré le rythme ciné, j'ai découvert ce langage-là.
Parce que juste le rythme signé, ça vient d'Argentine.
C'est ça. C'est ça. Ça a été créé par Santiago Vázquez. Donc c'est un musicien super sympa, super humble, un génie complètement fou, un peu autiste comme ça, batteur, compositeur, pianiste, chanteur, guitariste, qui est passionné par la musique. Il est vivant. Le langage est assez récent. Ça a été créé il y a 17 ans. Il a toujours été intrigué par les musiques populaires, savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de danser. Les musiques d'Afrique de l'Ouest, les musiques du Maghreb, les musiques d'Amérique latine, les musiques d'Inde, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, c'est quoi le match. Et puis il a théorisé tout ça, il a été chercher, il s'est renseigné, il a voyagé, il a étudié, et puis il a été toujours impressionné par les outils de composition, comment est-ce qu'on compose dans l'instant, ensemble. Et puis après, il s'est intéressé à la direction, au travail de Butch Morris. Puis il s'est intéressé au sound painting. Et un jour, ça a commencé à fuser dans sa tête, à fuser dans sa tête. Et il s'est dit, mais je dois créer un langage pour pouvoir produire une fête autour des percussions. là où il n'y a pas de tradition musicale percussive. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a une tradition de la percussion. Au Maghreb, il y a une tradition de la percussion. En Argentine, pas vraiment. Alors il s'est dit, comment est-ce que je vais créer ce truc-là ? Et il s'est dit, mais je vais créer un outil de composition qui va être basé sur la danse et la symbiose avec le public. Et la base de ce outil-là, c'est la pulsation. Le beat, la pulsation qui va nous unir tous. C'est sur ça qu'on va jouer. Et puis sur la répétition, la boucle. Toutes les cellules rythmiques qu'on va proposer vont être jouées en boucle à l'infini pour pouvoir rajouter à chaque fois des couches. La pulsation, la répétition, et puis l'écoute et le silence.
Mmh. Et les instruments donc, sont au cœur de ces percussions. Ouais. Y en a beaucoup. Et j'imagine qu'ils ont tous une histoire, qui viennent de pays différents, de continents différents.
C'est ça.
Toi, tu en as découvert, j'imagine, au fur et à mesure. Ils ont chacun leur histoire. Et comment vous faites pour faire parler, du coup, ces histoires, ces cultures à travers tout ça ?
Oh, c'est une très belle question, ouais. Ça. J'adore. ouais, chaque instrument a son histoire propre. C'est ça qui donne la beauté du groupe qu'on a ou de la composition instantanée. C'est qu'on mélange les différentes cultures et les différents instruments. On a les sourdos qui viennent de la batucada, qui ont l'objectif de jouer fort. En déambulatoire, ils sont légers et puissants. Les batucada, ce sont les orchestres qui jouent en déambulatoire dans les musiques brésiliennes, dans le carnaval, etc. On a les dounes, qui sont un instrument mélodique très présent en Afrique de l'Ouest. Le djembé, qui est le cousin du doun, qui se répondent beaucoup, qui travaillent ensemble. On a les congas, qui viennent d'Amérique latine, plus de Cuba, qui sont des instruments mélodiques, mais on joue toutes les subdivisions. C'est l'instrument de la salsa, c'est fait pour faire danser.
Ah, c'est un vrai voyage à chacun des spectacles, en fait.
À chaque spectacle, c'est un vrai voyage. Ce qui est assez intéressant, c'est que chaque musicien apporte sa culture musicale. Chacun est spécialisé dans un domaine, dans un style, ou dans plusieurs styles, ou plusieurs domaines. Et chacun apporte son langage, sa culture musicale, et crée quelque chose de nouveau, avec son propre langage, quoi.
Et pour chaque section, le but, c'est d'intégrer tous les instruments, ou c'est d'en utiliser quelques-uns ?
C'est-à-dire pour chaque musicien ?
Oui, pour un spectacle, par exemple, le propos, c'est d'utiliser le maximum d'instruments ou le...
Alors, on a un set établi, donc on a les djembé, qui vont avoir un rôle soit narratif, raconter une histoire, soit un rôle de drive, quelque chose qui va faire avancer le rythme avec des cellules rythmiques très courtes, ou bien alors qui vont avoir un rôle narratif sur des cellules rythmiques beaucoup plus longues, qui vont établir des cycles. On a les dounes qui vont avoir un rôle mélodique, les congas aussi qui vont avoir un rôle mélodique, parce que c'est les seuls instruments qui ont des notes et qui vont pouvoir se répondre. On a les sourdos, qui vont avoir un rôle plus de ligne de basse, parce que c'est des notes mélodiques aussi, on a deux timbres différents, mais très bas, très graves. On va avoir la cloche, qui va jouer le rôle de la clave, qui va donner un peu la colonne vertébrale du morceau. On va avoir toutes les graines, qui vont jouer les subdivisions, qui vont nous montrer dans quelle subdivision on est, en binaire, en ternaire. On va avoir, là, on a le bongo, qu'on utilise un peu différemment, qu'on utilise avec des baguettes, comme le sabar. Et les bongos vont avoir quelque chose beaucoup plus cinglant, très dans les hautes fréquences, qui vont définir soit un cycle, tu vois, quelque chose de... qui vont raconter une histoire sur un cycle très long, sur quatre mesures, ça fait caca caca, et puis on recommence le cycle. Et chacun peut... Il y a des rôles qui sont liés à chaque instrument, comme je viens de le dire, mais chaque instrument peut prendre le rôle d'un autre. Alors, on redistribue les cartes, alors.
Ouais, chacun peut trouver sa place et chacun doit prendre sa place. Parce
Exactement.
Que même un petit instrument, il a toute
bien
son
sûr,
importance.
Bien sûr. Il n'y a pas de petits instruments.
Tu vois, on en parlait tout à l'heure quand on s'est vu avec Chloé pour un petit peu parler de l'émission. Et je parlais de moi, de mon ressenti en tant qu'élève de ton cours. Et je disais que c'était assez impressionnant parce que, justement, tu nous as beaucoup dit aussi à quel point c'était important... quand c'est notre moment qu'on arrive et que tu nous dis ok bah propose-moi quelque chose, on a envie tu vois de se dire ok bah super vas-y je fais un truc ta 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 ta, et en fait bah déjà il faut écouter en effet, enfin si t'écoutes pas bah ça peut être très bien ce que tu fais, mais à ce moment-là bah ça va pas du tout avec les autres. Et je lui disais qu'il y a peu importe la journée que t'as eue. Et c'est pour ça que j'adore tes cours aussi tu vois, et le rythme signé en règle générale aussi, parce que ton énergie etc. Mais t'es obligé de t'investir. Vu que chaque instrument a son importance et a un son, en fait, on t'entend, t'es obligé de t'investir. Et je trouve ça hyper chouette parce que bah, du coup, à ce moment-là, c'est quand même aussi 2 heures ou 2 heures et demie qu'on oublie un peu, où tu vois, le temps un peu s'arrête et on est vraiment là pleinement dans le moment présent. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est autant plaisant, je pense, de jouer le rythme signé, quoi.
Ouais, je pense aussi, c'est, on ne peut pas faire semblant.
Ouais.
On ne peut pas faire semblant, on est obligé de s'écouter, on est obligé d'être là, on est obligé d'être attentif, on est obligé de réagir, on est obligé de composer ensemble. Les sections travaillent en hétérophonie, elles sont obligées de communiquer ensemble pour savoir où est-ce qu'elles vont jouer, qu'est-ce qu'elles vont créer ensemble. Quand elles sont en homophonie aussi, elles sont obligées de se mettre d'accord. Juste avant, elles ont une mesure pour se mettre d'accord et puis oum, on y va et bam, c'est parti. C'est assez kiffant. Moi j'adore.
Et en préparant l'émission, maman m'expliquait aussi que c'était à chaque fois des concerts uniques. Il n'y a rien qui est préparé d'avance. Et bien le propos, c'est que ça soit très spontané.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre qui organise tout ça sur scène? Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui mène un petit peu tout ça, j'imagine? Je crois que c'est toi d'ailleurs.
Oui, je ne suis pas le seul. Ouais. Toi, tu n'es pas encore venu nous voir. Hein.
Non, pas encore. Mais ça me donne envie.
Donc on est...
Pour qu'on imagine, parce que moi du coup je ne suis jamais venu voir des concerts, donc, les auditeurs non plus peut-être.
Oui, il y a un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre qu'on a appelé directeur, mais maintenant qu'on appelle conducteur. Cool. Les Italiens appellent ça el conductor. Donc conducteur ou conductrice, parce qu'on conduit la musique. Et le chef d'orchestre va juste donner des contraintes de jeu aux musiciens. Tu vas jouer, on va jouer en binaire ou en ternaire, à un certain tempo. On va donner le tempo, la pulsation, et puis on va lancer les musiciens, leur donner le moment où ils vont jouer. Mais c'est eux qui vont composer. Et on se base sur la proposition des musiciens. Ils vont nous proposer une cellule rythmique qu'ils vont répéter à l'infini. Comme ça, on peut chacun composer dessus. Et le chef d'orchestre va juste faire office de DJ, quelque part. Lancer une section, l'arrêter, lancer une autre section, écouter l'autre, jouer sur les fréquences. On va jouer que sur les basses fréquences, puis on va jouer que sur les hautes fréquences. Faire mettre en lumière un protagoniste, faire un solo. Ah, tu vas faire un solo. Mais le chef d'orchestre ne joue pas. Lui, il orchestre seulement. Il donne une direction à la musique, mais tout part des musiciens. Et il y a un échange entre musiciens, chef d'orchestre, et avec le public aussi. Parce que c'est une musique faite pour faire danser. S'il n'y a pas de réaction du public, c'est dur de jouer, de composer. Il y a vraiment un jeu entre musicien, chef d'orchestre, public, public, chef d'orchestre, musicien.
Le public, c'est-à-dire qu'il joue son rôle dans le sens où vous l'observez et vous voyez si ça répond?
Le public nous donne de l'énergie.
C'est l'énergie.
Il danse, il est là, il crie. Des fois, on arrête tout. Et puis, il y a un grand silence. Et là, il y a un grand brouhaha du public. Et puis, boum, ça reprend. Et tu les entends crier et danser d'un coup. Mais là, on peut les faire interagir. Question-réponse avec le public. Pam, 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 pi, pam, pam. Et le public va répondre. Et on joue comme ça avec eux. C'est à chaque fois, comme on ne sait pas ce qui va se passer, il y a le côté assez vertigineux. Tu vois, tu as un peu le vertige quand tu montes sur scène. Tu ne sais pas ce qui va arriver.
Ouais, de l'impro complet.
De l'impro complet. Ouais, et puis cette interaction qui se fait, cette alchimie, cette magie qui se crée, et puis après il y a un truc qui se passe. Et ouais. des fois c'est dur. des fois tu comprends pas la musique qui est en train de se passer, et puis tu dis mais qu'est-ce qui se passe, tu es là en train de diriger, c'est compliqué, tu perds le 1, tu perds la pulse, tu perds tes moyens, et puis tu te retournes et tu regardes le public danser, tu dis mais en fait tout va bien, et c'est parti, et on reprend, et boum.
Oui, la respiration qui a toute son importance pour ressentir.
C'est ça.
Et rythme signé, donc il y a les signes.
Ouais.
C'est quoi leur importance? Parce que j'imagine que vous vous observez beaucoup, vous regardez, mais il y a des signes aussi qui vous permettent de communiquer pour enrichir.
C'est ça, le signe permet. Donc il y a une centaine de signes. Et le signe est un grand langage gestuel pour pouvoir démarrer au bon moment. Démarrer sur quoi? Donner des contraintes de jeu, binaire, ternaire, cycle, fréquence, comme je disais tout à l'heure. On peut faire la pêche, on arrête tout. Pour arrêter tout, il faut un signe bien particulier. On peut faire le roulement, c'est un autre signe. Prrr, pim. On peut écrire des rythmes aussi avec les doigts. Si ma main est un temps, chaque doigt est une subdivision, alors on peut écrire comme une partition. Si toi, tu me vois...
Pour les auditeurs qui ne nous voient pas, tu nous le fais. Donc
là, j'ai mes deux mains l'une à côté de l'autre. J'ai tous mes doigts levés et je décide de baisser deux doigts. Et ça fait une formule rythmique. Ici, en l'occurrence, ça fait pam, 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 pam. Tu vois, ou bien ça fait ta da 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 dam tan tan ta 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 ta.
Et Marion, toi tu l'as appris ce langage facilement ou...
Je suis en train.
Elle est en train d'apprendre, elle dirige aussi. Elle a dirigé une fois un morceau.
Oui, parce que c'est
avec,
ça, tu
avec son aide.
Ouais, tu peux transmettre à un moment donné la direction artistique, on va dire, en live à un des musiciens.
Ouais, bah en fait, on tourne. Ouais, on tourne. Sur scène, on a chacun, je sais pas, 10, 15 minutes. On se met d'accord sur combien de temps va durer un morceau. Le directeur ou la directrice, enfin, le conducteur ou la conductrice arrive sur scène, fait son morceau, termine. Puis après, on change de conducteur-conductrice. Ce qui est assez génial, c'est que chaque conducteur-conductrice a sa façon d'appréhender la musique. Et a son bagage musical en lui, sa culture musicale en lui. Et sa façon d'appréhender la musique, du coup, ça se ressent dans chaque direction, chaque conduction, à chaque conducteur ou conductrice est super différente. Quoi. Si c'est moi qui vais diriger ou Marion qui va diriger, ça n'a rien à voir. C'est deux ambiances différentes, c'est deux façons d'appréhender la musique, c'est deux styles différents, c'est deux choses qui nous... c'est pas les mêmes choses qui nous font vibrer, du coup la musique est totalement différente.
Comment, en fait, moi c'est ce que je me suis dit, comment t'as découvert ça? Comment le rythme signé s'est arrivé dans ta vie?
J'ai fait un stage. Il y avait un stage qui était proposé à Liège. Le rythme, moi je viens de Belgique donc.
Ouais, ouais.
Le rythme signé était présent à Bruxelles, qui est la capitale. Moi j'étais à Liège, c'était à l'époque où j'étais animateur jeune. Et donc déjà, je faisais de la percussion dans plusieurs groupes. Et puis j'ai fait ce stage-là et j'étais
subjugué
par la portée pédagogique. Et j'avais un groupe de jeunes qui voulaient aller en manifestation et faire de la musique. Du coup, j'ai très vite, après le premier stage, j'ai directement appliqué le rythme signé avec des jeunes. On a été en manifestation avec des percussions et puis j'ai très vite utilisé le langage. Après, je suis allé vivre à Bruxelles. Et puis j'ai rencontré le groupe Sismo qui voulait s'implanter à Liège, qui n'arrivait pas à s'implanter. Moi, je produisais déjà beaucoup de concerts à Liège et je leur ai proposé mon aide en échange d'apprendre le langage. C'est comme ça que ça s'est fait. J'ai commencé à produire le groupe, à travailler avec eux dans la prod et la com. Et en attendant, en échange, je participais aux ateliers, j'allais aux répétitions avec eux. On a travaillé quelques années. C'était un peu difficile parce que c'était la période du Covid.
Oui.
Puis j'ai appris avec eux. Et après, le langage, en fait, il s'apprend surtout en pratiquant. Et puis j'ai rencontré le créateur, Santiago Vasquez, en Italie. Puis j'ai fait un voyage en Italie. Puis j'ai vu une autre façon de voir le rythme signé. En fait, chaque pays a sa façon d'appréhender le langage. Quoi.
Ouais, c'est ma question, ça. Ouais. Parce que toi qui as découvert donc, ça à Bruxelles,
ouais.
En Belgique, est-ce que ça a une influence sur la manière d'aborder le rythme signé? Là, par exemple, aujourd'hui, tu développes ça à Marseille. On dit de Marseille qu'elle est très inspirante, elle a beaucoup d'influence africaine notamment et d'autres. Est-ce que c'est un impact sur la manière dont tu diriges aussi aujourd'hui à Marseille? Est-ce qu'elle t'inspire, la ville?
La ville m'inspire à fond. Je ne sais pas si ça a un impact sur la façon dont je dirige le groupe, mais la ville est inspirante parce qu'il y a du répondant. Il y a une culture de la fête, il y a une culture du dehors, il y a une culture de l'échange à Marseille, il y a une culture de l'interaction et de la rencontre. Ça, c'est super inspirant. Il y a une jeunesse bouillonnante à Marseille, il y a une vie culturelle assez présente. J'avais été voir un premier concert, ça faisait 2 mois que j'étais là, j'étais pas encore à Marseille. En arrivant à Marseille, j'ai été accueilli chez mon cousin à Saint-Chamas. C'est pour ça qu'on est arrivé à Marseille, en fait, c'est un concours de circonstances. On voulait quitter la Belgique avec ma compagne. On avait pensé au Maroc, à l'Espagne, parce que moi je suis marocain, comme je l'ai dit. On a pensé à l'Espagne. J'ai une tante qui m'a appelé par téléphone et qui me dit « Ton cousin Amine va aller vivre près de Marseille, tu as envie de quitter la Belgique, contacte-le. » Je l'ai contacté, il m'a dit « Oui, je vais vivre avec ma femme et mes deux enfants près de Marseille. On a une maison qu'on est en train de retaper, vous pouvez venir un mois ou deux. » Ils avaient deux enfants, nous on avait une petite fille d'un an, c'était un peu dans la promiscuité, mais ils nous ont aidés. Et donc c'est vraiment un concours de circonstances pour lequel on a atterri à Marseille. Mais très vite j'ai été voir un concert de Sean, le prof de Batucada, qui avait un groupe de Afrobeat. Il jouait de l'Afrobeat et c'était la salle de concert près de Cours Julien.
L'espace Julien.
Non, le Molotov.
Ah oui.
Le
oui.
Molotov. Et j'avais vu ce concert là. Et je me suis dit, le rythme signé va fonctionner ici. Les gens étaient en transe. Ils étaient 18 sur scène. Ouais. Tu vois, l'afrobeat, c'est des cuivres, des percus, c'est là, ça danse et tout. Et les gens étaient en feu. Et là, je me suis dit, ça va fonctionner.
Oui, c'était ma question aussi en préparant l'émission. Je me suis rendu compte que vous produisez beaucoup, par exemple, au Makeda. J'imagine que le lieu où vous produisez a son importance, parce qu'il y a un public qui réagit plus ou moins. Au Makeda, vous retrouvez un public qui vous connaît peut-être aussi.
Ouais,
est-ce que ça compte le lieu où vous jouez? Parce que comme c'est une interaction avec le public...
Ça compte, mais je pense que le rythme signé passe partout. Il peut jouer partout s'il y a un public. Le Makeda, c'est une chance. C'est grâce à Yanni. Donc c'est la première personne que j'ai rencontrée qui m'a aidé à fonder le groupe. C'était un des contacts que j'avais depuis la Belgique. petite dédicace à Yanni. Je lui ai envoyé un message en arrivant à Marseille, il m'a pas répondu, puis je l'ai rencontré 8 mois après. Et 8 mois après, ça a matché avec lui et Louisa, et on a organisé ensemble la première audition, il y a un an et quelques mois, la première audition pour auditionner les musiciens de secousse et les sélectionner.
Ouais, c'était aussi ma question, c'est-à-dire comment secousse a vu le jour ?
Eh ben, c'était du fruit de la rencontre avec Yanni et Louisa. Que j'ai rencontré grâce à Bart Rousseau, qui est un clown et percussionniste qui fait du body percu.
Je sais qui c'est.
Bah ouais,
tu lui as acheté sa moto.
Tu as acheté la moto à Bart ?
Oui.
Trop fort.
Incroyable. Mais ouais. Oui, en effet.
Le monde est petit. Il fait du body percu.
Mais il adore secousse en plus. Il m'avait dit, mais ouais, je suis allée voir un groupe génial. Ok, incroyable. Ouais. La vie. Ouais.
Donc pour les 50 ans, je pense, de Bart, il m'avait invité. Bart que j'ai rencontré grâce à Sean de la Batucada.
Incroyable.
Parce que j'étais venu à une de leurs répètes de Batucada et Bart faisait une intervention où il a fait un atelier de body percu. Et puis je lui ai parlé du rythme signé. Il connaissait déjà un peu parce qu'il avait été en Belgique. Et de là, il m'a invité à ses 50 ans, 6 mois plus tard. Et je suis venu à ses 50 ans dans la campagne. Et là, j'ai rencontré Yanni qui jouait pour la première fois avec sa compagne Louisa, leur groupe, c'était leur premier concert chez Ricoco. Et là, on a sympathisé. Il m'a dit « Ah, je t'ai pas répondu, c'est toi, Younes !» Et puis, ça a très bien matché entre nous, on a sympathisé. Et 2 mois après, on a organisé l'audition pour sélectionner les musiciens qui allaient faire partie de Secousse. On n'avait pas encore de nom à l'époque. Et Yanni nous a trouvé un endroit, on a été dans un théâtre qu'on a eu gratuitement. Je ne sais plus le nom du théâtre, mais encore merci à eux. Et puis merci à Yanni et Louisa pour leur contribution. Quand on dit je suis le fondateur, je suis l'initiateur, mais c'est vrai que je suis le cofondateur parce que Yanni et Louisa étaient vraiment présents dès le départ pour m'aider à monter. On a fait quelques réunions de production et puis on a mis la machine en route ensemble et on a sélectionné ensemble les musiciens. C'était pas une mince affaire. On avait 25 personnes qui sont venues à l'audition. Et puis, 3 mois après, on faisait notre premier concert au Makeda.
3 mois après, disons, ouais. Ça allait très rapidement.
En fait, l'audition était le 12 septembre et le 13 décembre, on jouait au Makeda.
Et vous aviez un nom précis de personnes ? Vous étiez dit, OK, max 10, 12
Oh, il y avait, ouais, c'était une douzaine de personnes maximum. Mmh. On était 13 à l'époque. Il y en a un qui a quitté l'aventure parce que c'était trop pour lui au niveau des trajets. Et le Makeda, c'est aussi grâce à Yanni que j'ai rencontré Francine, qui a dit « Ok, votre projet a l'air... » J'avais fait un dossier sur papier pour présenter le projet, expliquer c'est quoi le rythme signé, montrer les différents groupes au Japon, en Belgique, au Portugal, etc. etc. Et puis il nous a dit « Bah ça va, on va faire un essai, on fait une première date le 13 décembre. » Et puis nous, on a travaillé pendant 3 mois, plus des copains de Guillaume Coduti, un des percussionnistes et conducteurs de Sismo, qui est venu m'aider, qui est venu faire une résidence avec nous, qui nous a fait des répètes et qui a fait le premier concert avec nous. Marion, une copine belge aussi que j'ai appelée en renfort, je lui ai dit qu'elle est une super conductrice, qui a appris en même temps que moi le rythme signé. À la même époque, on a appris ensemble, mais elle s'est très vite révélée comme étant une génie. De la direction et de la composition instantanée. Du coup, je l'ai appelée et elle est venue faire des allers-retours pendant un an. Et le premier concert qu'on a fait au Makeda le 13 décembre, il y avait 50 mètres de fil devant le Makeda. C'était un mercredi.
C'est incroyable.
C'était complètement fou.
Espérons que ça soit le cas pour demain aussi.
Non, mais c'est déjà sold out. Il n'y a plus de fil. C'est sold out. Il n'y a plus de fil, quoi. Et puis après, on a eu la confiance de Francine et du Makeda. Puis ils nous ont programmé 4 fois d'affilée sur 2 mois d'intervalle. C'était janvier, mars, je sais plus quoi.
Et
c'était à chaque fois sold out, quoi.
Non, c'est génial. Ouais, enfin, en même temps, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'est vraiment génial.
Ouais.
Mais ça a marché, quoi. Tout a été fluide, j'ai l'impression.
Tout a été très fluide. Les astres se sont alignés. Mm. Mais j'avais des bons exemples entre la Belgique et l'Argentine. Il y avait des exemples, tu vois. Mm. La percussion, c'est super immédiat, c'est intuitif. La communication passe. Le langage a été fait pour des percussions, pour faire danser les gens, pour rassembler. Et de là se crée une communauté parce qu'au-delà du groupe professionnel, il y a des gens qui veulent apprendre le langage. J'espérais que ça allait fonctionner. C'est un peu prétentieux de dire je savais, mais j'espérais que ça allait fonctionner aussi bien le groupe que les ateliers que je pouvais donner. Et là, maintenant, c'est vraiment en train de fonctionner. Autour des ateliers, il y a une cinquantaine d'inscrits. Et le groupe fait à chaque fois... Là, c'est notre 5e concert au Makeda, c'est notre 5e sold out, c'est assez exceptionnel, quoi. Mmh. C'est fou. Puis on a joué à la mûrisserie, on a joué au couvent, on a joué sur le Vieux-Port un dimanche matin.
Ouais.
On a joué un peu en dehors de Marseille, près de Salon.
Vous investiguez vraiment la ville de Marseille.
On essaye, oui. Il faut que ça se propage. Mmh. On est là pour ça.
Et on parle donc de musique, d'instruments. Et dans notre émission, on parle beaucoup aussi du rapport au corps. Oui. Et j'étais curieuse de savoir l'implication du corps aussi dans tout ça. De quelle manière il est engagé avec ses instruments de musique? Comment vous faites? Est-ce que le corps a son importance? Est-ce que la danse aussi pour vous? Parce que le public danse. Est-ce que les musiciens dansent aussi?
Enfin, comment... Elle m'a demandé, j'ai dit, je laisse Younes répondre. Est-ce qu'on danse?
Tu peux répondre. Hein
non, c'est mais toi, le public, non, mais j'adore parce que oui, un peu, on danse.
On danse complètement, le public danse à fond. Si ça danse pas, c'est que c'est raté.
Non, nous, musiciens.
Ah, les musiciens aussi, ouais, les musiciens dansent à fond, ouais.
Il y a, non, parce que j'imagine qu'il y a des grosses percus aussi qui impliquent que vraiment le corps soit aussi engagé.
Le corps est totalement engagé. On ne peut pas jouer sans engager le corps. On ne peut pas rester statique, figé et seulement bouger les bras et les mains. Ça ne fonctionne pas. Ça manque de groove. Alors ça fait machine. Non, le corps doit être impliqué. Il faut danser, il faut bouger, il faut ressentir la pulsation dans son corps. Il faut ressentir il faut vivre la phrase rythmique que tu proposes. Il ne faut pas seulement la proposer et la jouer, il faut la vivre. Mais il faut aussi écouter ce que l'autre fait. Il faut vivre aussi la phrase rythmique que l'autre fait. Il faut l'intégrer dans son corps. Il faut quelque part jouer la phrase rythmique que l'autre joue pour pouvoir jouer pour pouvoir lui répondre et jouer quelque chose en conséquence. Donc le corps tout entier est impliqué. C'est le corps, l'esprit, tout. Il y a un truc énergétique assez puissant, quoi.
Mais d'ailleurs, il y a un signe qui dit danser.
Il y a un signe qui dit danser. Mais alors, ce signe n'est pas conventionnel.
C'est Younes.
C'est un signe qu'on a amené de Belgique. C'est je pourrais dire, c'est de l'argot.
Ok, ouais.
Mais c'est. Bon, on peut rajouter un signe ou deux. C'est bien aussi.
Du coup, oui, il nous oblige un peu à danser parfois. Il nous dit allez, on y va, là. Et on danse.
Et oui.
Au-delà de ça.
De faire corps.
Ouais, de faire corps. Et au-delà de ça, je pense, je suis intimement. Convaincu que l'apprentissage du rythme passe par le corps, au-delà de l'instrument. C'est pour ça que je commence toujours mes ateliers par un échauffement qui passe par le corps. Quoi. On apprend beaucoup de choses. Il y a le pas. On marche en rythme. Et puis sur le pas, on joue. Et puis sur ce qu'on joue avec les mains, on chante quelque chose. Et on fait de la dissociation, puis de la polyrythmie, puis de l'écoute. Quoi. Le corps doit être totalement impliqué, sinon on ne peut pas jouer.
D'ailleurs, là, dernièrement, le cours dernier, tu nous as enseigné un signe. Et il y avait vraiment un côté, tu sais, c'était celui-là. Et
yin,
vraiment,
yang, ouais.
Ouais, alors, on ne peut pas me voir, mais il y a vraiment un côté où j'ai même perçu, tu disais, mais même recroquevillez-vous sur vous, quoi. Tu sais, quand on est vraiment tout resserré, il y a vraiment cet esprit de faire corps avec l'instrument.
C'est
vraiment.
Ça. Parce que ce signe-là veut dire, on joue fermé, on coupe les vibrations de l'instrument. Où on ouvre les vibrations de l'instrument. Mais au-delà de couper les vibrations de l'instrument, il y a quelque chose de l'ordre du ressenti. Il faut jouer vraiment avec l'intention de jouer fermé. Donc on se recroqueville sur son instrument, on joue fermé, on a le visage qui est fermé. Et puis petit à petit, on ouvre. Et on va laisser vibrer de plus en plus l'instrument, mais on va aussi vibrer, nous, s'ouvrir de plus en plus. Il y a quelque chose de l'ordre du ressenti et de l'implication qui est très importante.
Ouais, s'observer et ressentir aussi, ça, je trouve ça très intéressant de le mettre aussi en avant.
Yes.
Et la meilleure, enfin, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la diversité des instruments met aussi en avant nos différences dans une société, et que la meilleure des manières de se connecter malgré nos différences, c'est faire de la musique ensemble, créer du lien entre les gens, les musiciens aussi avec le public. Est-ce que c'est ta volonté d'avoir un peu ce rôle de société, d'apporter peut-être plus de joie aussi dans cette société? Est-ce que...
Ah mais complètement.
Est-ce que c'est un peu le propos aussi de Rythme Signé de...
Ah mais ouais, tout à fait.
Là, de Secousse.
Ouais, de Secousse, de Yesai, qui est un peu la communauté autour de Secousse, les ateliers, les élèves. Moi je les appelle pas des élèves, mais ce sont les membres du collectif Yesai. Donc il y a, là maintenant on est 56 inscrits qui font du rythme ciné toutes les semaines. T'as Secousse qui sont les musiciens professionnels qui se produisent, puis t'as toute une communauté qui est en train d'appréhender le langage, qui joue ensemble, qui se voit le mercredi, le jeudi, qui apprennent à diriger, puis ça va grandir. Après ils vont avoir peut-être leur propre groupe, ils ont commencé déjà à organiser des jams ensemble, à pouvoir jouer ensemble. On organise aussi des concerts pour les ateliers de Yesai, on a déjà fait quelques concerts, on en a fait un en décembre, on en fera deux en février, il y en a un prévu en mai, puis en juin, et il y a ce truc-là va grandir et les gens vont s'interconnecter entre eux puis commencer à utiliser le langage indépendamment de moi. Et c'est ça qui est beau dans le rythme signé. Il y a une communauté autour du rythme signé. Mmh. Et si tu sais jouer, mais tu peux aller voir les autres pays. Mmh. En Italie, il y a une dizaine de groupes.
Ouais, c'est un langage universel.
C'est un langage universel qui est en train de se propager. Et Santiago favorise cette propagation. Il n'a pas mis un label sur le rythme signé. Il favorise ça. Moi, quand je l'ai rencontré et que je lui ai dit que j'avais ce projet un peu fou de créer ça à Marseille et que je ne me sentais pas musicien pour le faire, il m'a dit « Mais fais-le, crée ta structure, vas-y, je te soutiens, j'ai des cours en ligne, tu ne les payes pas, forme-toi, continue à te former et quand tu seras prêt, invite-moi. » Tu vois, il y a un truc de propagation quoi, qui est assez ouf. Mm. Et là, y a, d'ailleurs maintenant, il y a un Italien qui s'appelle Michele Braguti qui a un groupe et une école aussi à Padova en Italie. Son groupe s'appelle la Cumberia, je pense. Bon, il y a plusieurs groupes et il est avec nous. On a fait une résidence avec Secousse, avec lui. Là, présentement, il y a l'atelier de rythme signé de Yesai qui est en train de se faire à la boîte à musique. Il est en train de leur donner cours. Il y a des échanges qui se font. Moi, je vais peut-être aller. J'ai déjà été en Italie plusieurs fois. Là, maintenant, c'est l'Italie qui vient à Marseille.
Oui, chacun apporte ses influences.
Chacun apporte ses influences, ouais, à fond. Tout à fait.
Et je me posais la question de savoir, parce que c'est un super outil de communication, de pédagogie, comme tu disais, ouais. Est-ce que ça peut être imaginé, ou c'est peut-être déjà le cas, que ça soit dédié aux enfants, peut-être pas trop jeunes, mais est-ce que c'est dédié uniquement aux adultes ?
Non. Moi, je préfère travailler avec les adultes parce qu'il y a quelque chose de très immédiat. Les enfants, il faut prendre un peu plus de temps. Mais, j'ai fait pas mal d'ateliers avec des enfants cette année à Marseille, dans des écoles, ou même en dehors de Marseille, avec des tout petits, 5-6 ans. Alors on leur apprend des signes beaucoup plus simples, le roulement, la pêche, bim, pim, et puis des petits trucs, l'homophonie, l'hétérophonie, avec des instruments beaucoup plus accessibles pour eux. Parce que les grosses percussions, ça peut faire mal pour des petites mains d'enfants. Mais qu'est-ce que j'avais fait ? Des petits œufs, tchic, 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 c'est super efficace. Des baguettes à jouer par terre. Des boomwhackers, ce sont des tubes en plastique qui font différentes notes. Donc on peut avoir de la mélodie. Mmh. Et puis après, ce qui est magnifique, c'est après une séance, tu fais diriger les enfants. C'est incroyable. Mais ouais, c'est super. Ça ce qui est fou. Ils font tout le monde, la pêche, bim. Et là, ils voient tout le monde qui réactive, bam. Et ça joue. Tu vois, ça joue. Et on n'est pas dans un truc de résultat, mais on est dans un truc de ressenti. On n'est pas dans un truc de résultat musical, d'avoir vraiment quelque chose de musical, mais vraiment de produire quelque chose avec les enfants et que les enfants dirigent et ressentent la chose. Quoi. Ça, c'est assez extraordinaire.
Je trouve ça super intéressant, ce collectif, à quel point il peut être puissant et que chacun peut prendre son rôle. Parce que souvent, petit, il y a un timide, il y a un leader. En fait, chacun peut prendre sa place et de se dire, bah, moi aussi, je peux faire ça, j'en suis capable.
Tout à fait.
Et puis, ça apporte des subtilités aussi au langage. Et à la manière d'habiter aussi son corps, ouais. La vie, et la vie est tellement pleine de subtilités, je trouve que ça apporte aussi ça, ce que tu décris à travers toutes ces sonorités, tous ces rythmes. D'ailleurs, qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui enrichissent, je trouve, nos existences.
Bah ouais, on devrait apprendre la musique plus par le ressenti que par le côté académique ou grammatical. Là, souvent, moi j'ai fait du solfège quand j'étais gosse, avant de pouvoir faire un instrument, j'y étais terrorisé. Je ne savais pas chanter, j'avais une prof de solfège qui m'a dit que je devais me faire opérer alors que j'avais 10 ans. Tu vois, c'était super traumatisant. Alors que c'est comme si on apprenait la grammaire avant de savoir parler. Tu vois, le solfège, c'est ça, c'est une grammaire de la musique. Alors que la musique, elle doit se jouer, se vivre. Après, on apprend la grammaire. D'abord, on commence à crier, puis on parle. Puis après, parler, peut-être on peut faire la grammaire pour faire autre chose, quoi.
Moi je me disais justement, vu qu'il y a énormément, toi et t'as aussi beaucoup voyagé, il y a le rythme signé partout qui existe, est-ce que t'as trouvé des différences justement entre la manière d'aborder la musique et la musique surtout dans les différentes cultures, ou est-ce que au contraire c'est plutôt quelque chose qui a un langage commun?
Alors il y a le rythme, on parle du rythme signé là.
Oui.
Donc il y a le langage commun, le langage gestuel pour composer la musique dans l'instant. Mais chaque musique va être. Chaque endroit, il va y avoir une production différente.
Oui, voilà.
Tout dépend des instruments qu'il y a. Donc chacun a son influence. Il y a une direction artistique qui va être donnée. Sismo, ce sont des. En Belgique, c'est des percussions avec une visée très élitiste où on prend les meilleurs. On est là. Et puis après, il y a tous les élèves. Il y a vraiment une dichotomie entre les musiciens et les élèves. Et il y a un truc d'exigence. Et ils sont très très forts. Et puis ils produisent des outils pédagogiques assez fous. En Italie, il y a une moins grande exigence, mais il y a beaucoup plus d'instruments. Il y a les pianos, il y a les guitares, il y a la basse, il y a les sections cuivre, il y a des sections chant. Tu as 4 chanteurs ou chanteuses, tu as 5-6 cuivres, tu as 2 claviers, une basse, 3 guitares, une batterie, plein de percus. Et là, tu fais de la musique complètement folle, quoi. Et il y a ce côté beaucoup plus... La condition des musiciens, elle est beaucoup plus précaire en Italie. Du coup, il y a ce côté très... débrouillard avec 3 bouts de ficelle, ils font des trucs incroyables. Moi, j'ai été me former en Italie, on a fait les rencontres italiennes de rythme signé. Tu vois que les gens, ils bossent comme des malades pour faire un truc de fou, quoi. Où toute la journée, on avait des ateliers, ils montaient une scène tous les soirs avec des lumières, des petites loupiottes et tout, avec des draps derrière, avec des draps derrière la scène, et c'était complètement magique, quoi. Au Portugal, ils sont plus axés sur le chant. T'as Aisha Fingini, qui est une Argentine qui vit au Portugal, avec Imargo, mon ami que j'ai rencontré, mon ami contact que j'avais à Marseille, qui est parti au Portugal, qui produit le rythme ciné, travaille beaucoup plus sur la voix. Aïcha, elle a un groupe de chanteuses et font du rythme ciné rien qu'avec des voix et des petites percus. Wow. Et c'est super beau. Aïcha est une chanteuse exceptionnelle et ils font des choses incroyables. Puis maintenant, ils sont en train de monter d'autres trucs de rythme ciné avec plus d'instruments, etc. Donc chacun apporte sa façon de faire, son influence.
Moi, ça me fait pas penser, parce que je vais souvent au Maroc. Oui. J'ai une partie de ma famille qui a habité pendant un moment et j'y allais souvent. Et ça me fait penser au Gnawa.
Ouais.
Toi qui est originaire du Maroc, le Gnawa, ça repose beaucoup sur la percu aussi.
Ouais.
Est-ce que ça a une influence, toi qui parles d'influence, est-ce que ça a eu une influence sur ta manière d'aborder le rythme signé ou dans la manière dont tu abordes la direction artistique, tes influences à toi?
Bon, mes influences à moi, elles sont multiples. Bien sûr que toutes mes influences vont donner une direction à la façon dont je vais apprendre la musique. Et si on parle spécifiquement du Maroc et de la musique gnawa, ce qui est spécifique à la musique gnawa, c'est la transe, la répétition, la transe, des cellules rythmiques qui vont être répétées. Tac, 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 et puis cette ligne de basse qui est jouée au gembri, qui va donner un truc de trance, c'est krakab en métal. Les métals vont commencer à se répondre et puis les gens dansent. La musique gnawa est une musique mystique, c'est une musique pour invoquer les esprits, pour soigner. Les gens rentrent en trance, ils parlent avec les esprits. Il y a un truc très 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 mystique dans le gnawa, au-delà du folklore qu'il peut y avoir. Il y a vraiment un rôle culturel, social, spirituel à fond, complètement. Est-ce que je peux retrouver quelque part ou que j'essaye d'amener peut-être dans ce cous où je pense qu'il y a intrinsèque aussi au rythme signé, c'est la recherche de la transe. Tu vois, c'est ce truc de on travaille sur des cellules rythmiques qui vont se répéter et le but c'est de rentrer en transe.
Ouais, de faire corps aussi avec le public, c'est ça aussi, c'est de le mettre lui-même en transe.
C'est ça. Complètement.
Et le fait d'être conducteur, est-ce que ça te manque parfois d'être... Parce que je sais, par exemple, que des fois, vous changez.
Ouais.
T'aimes autant conduire que jouer?
Oui.
Ouais.
Ouais, j'aime autant conduire que jouer, puisque... j'aime autant conduire que jouer. C'est peut-être pas plus jouer que conduire.
Ah ouais?
Ouais, j'adore jouer.
Et comment tu t'es dit, ok, donc ce coup, ça marche si bien, du coup, je vais créer Yesai en fait.
Non, c'est venu avant.
C'est venu avant.
Ouais, parce que j'ai commencé d'abord par donner des ateliers de rythme signé à la Fabulerie bien avant Secousse. C'était un an avant Secousse. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans à Marseille pour développer ce projet-là. Et avant de développer un groupe professionnel, je voulais d'abord montrer le langage aux gens, faire des ateliers. Oui. Donc j'ai fait une fois par mois des ateliers prix libre à la Fabulerie. Et puis après, j'ai été au studio de Canis où j'ai créé le premier collectif. C'est pourquoi ça s'est appelé Yesai? Parce que les premiers élèves, on a commencé avec le groupe du mardi. Et puis quand ce coup s'est arrivé 5 mois après, j'ai ouvert un deuxième atelier le jeudi. Les élèves du mardi, dès qu'on arrivait à quelque chose qui, moi, me satisfaisait, je criais « Yesai, on y est !» Et puis, ils se sont auto-appelés Yesai. Et puis maintenant, il y a une association qui est en train de se créer et qui s'appelle Yesai Productions, qui produit les ateliers de percussion et rythme signé et les concerts qui suivent, quoi. Donc,
tu peux être fier de tout ce que tu as créé jusqu'ici. Et c'est pas fini.
C'est pas fini, ce n'est que le début, mais c'est surtout grâce à tous les gens que j'ai rencontrés sur ma route qui m'ont permis de le faire.
Ouais, c'est beaucoup de rencontres, hein, de ce que tu nous expliques. Ton
c'est
projet,
partage,
c'est énorme. Ouais, du partage, des rencontres, c'est énorme.
C'est ça. Beaucoup de gens qui croient
au truc. T'as dû beaucoup donner, mais beaucoup aussi t'ont donné.
Ah, j'ai reçu énormément. Mm. C'est pour ça que je n'arrête pas de donner, parce que je reçois beaucoup.
Mais en tout cas, moi, pour savoir un peu ce que vous donnez sur scène avec ce coup, c'est impressionnant, mais aussi en cours, et je tiens quand même à te faire une dédicace à l'antenne actuelle, actuellement, parce que je me dis quand même, c'est vraiment trop génial. Enfin, tu vois, il y a une certaine liberté, tout en étant un petit peu structuré, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et ce que tu disais aussi, il faut qu'on s'écoute. Et tout en s'écoutant, on arrive à créer une liberté ensemble. Et ça, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est de créer ensemble, justement, parce que bah, solo, c'est moins marrant, je trouve, en tout cas pour moi. Et donc d'être tous ensemble et de créer ensemble, t'es autant investi que nous. Et je sais pas, il y a vraiment... voilà, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Younes, tu dégages cette joie de vivre un peu innée chez toi et qui, du coup, tu nous la transmets et... Tes cours sont très représentatifs de qui tu es.
C'est super gentil, ça.
Un vent de liberté, un vent de fraîcheur.
Ouais, ouais. Bah, je suis très content d'aller à mes cours le mercredi, par exemple.
Mais c'est super, je suis très content de les donner. Et puis, et je suis content aussi d'avoir ce retour de tout le monde. C'est super chouette. Et en ce qui concerne les cours, là, il y a Marion qui vient de s'installer à Marseille, qui commence aussi à donner les cours. Et c'est super important que les gens voient d'autres énergies, d'autres façons d'appréhender le rythme signé. Alors, il y a moi, mon énergie et tout, mais il y a aussi l'énergie des autres.
Bien sûr.
Qui est assez incroyable. Mmh. Là, ils sont en train de travailler avec Michaele. C'est complètement fou. J'adore.
Ouais, la liberté, le corps, les instruments, de la joie, du rythme, de l'énergie... la collectivité, le collectif,
ouais.
S'amuser aussi beaucoup.
S'amuser, très important.
La transe, comme tu l'as dit, ouais. Beaucoup de créativité, de l'impro, les gestes, mais surtout de la liberté, comme tu dis, Marion, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et tu disais ce que tu viens de dire, la liberté ensemble.
Ouais.
Parce que la liberté, souvent, on l'associe à soi, mais la liberté, ça peut être aussi les autres.
Et quand on la vit ensemble, c'est encore
mieux. Non, mais je pense que la liberté, c'est surtout les autres. Mmh. C'est une liberté cadrée. C'est une liberté pas sans l'autre. Tu peux pas jouer tout seul. Alors, il y a tous les autres. Si tu joues tout seul, tu joues tout seul. Tu peux pas prendre la liberté de saccager la composition qui est en train de se faire. Tu dois créer un espace de liberté qui permet à l'autre de s'exprimer aussi. C'est pas une liberté seule, c'est une liberté en interaction.
C'est-à-dire comment tu laisses la liberté à l'autre d'exister à tes côtés, c'est ça ?
C'est ça. Comment tu laisses à l'autre, tu permets à l'autre, à travers ce que toi tu vas exprimer librement, ce que lui, tu vas lui permettre d'exprimer quelque chose en interaction avec ce que tu joues. C'est ça le truc, c'est la liberté collective. Et c'est ce dont on a besoin dans ce monde
notre
de fou.
Notre société
quoi.
A besoin. Ouais.
Mais de fou, complètement.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actualités de Secousse ?
Bien sûr, on va fêter les 1 an de Secousse le 30 juin au Makeda, jeudi.
30 janvier.
Oui,
demain quoi.
Complètement à la masse. T'as vu, je suis fatigué.
C'est pas grave.
Donc le 30 janvier, c'est-à-dire demain, c'est demain.
C'est demain. Ce soir, tu te reposes.
Je me disais, ça va, c'est après-demain, j'ai encore un jour, tu vois. Mais en fait, c'est demain.
C'est demain.
C'est ça. Je vais envoyer des mails aujourd'hui par rapport à demain, de faire les comptes. Bon, bref. Ça, c'est la popote de production. Donc, c'est ça. Demain, nous fêtons nos 1 an. En fait, c'est nos 1 an et 1 mois. Parce que le premier concert était le 13 décembre. Et le deuxième concert était mi-janvier, au Makeda. Donc, on fête symboliquement nos 1 an. On va rejouer le 15 février en dehors de Marseille, je sais plus le nom, à Dardagne, je pense. Est-ce que vous me corrigez? Non, Dardagne.
Je ne
sais pas.
Je me connais pas.
C'est pour les 20 ans d'une asso qui fait des percussions africaines et de la danse africaine. Ils nous ont invités, c'est super honorifique. On va jouer le 7 juin dans le 12e à Marseille. Et puis là, l'objectif aussi, c'est de continuer à se produire, d'aller ailleurs, de visiter Marseille et ses alentours avec Secousse. On a de la chance d'avoir 12 musiciens avec du réseau, de l'envie, de l'ambition. Et on espère pouvoir continuer à se produire.
Et le prochain spectacle avec vos élèves ?
Alors là, ce sera le 6 février. Il y a la jam du Labo des Désirs à La Friche. et le 7 février, le concert organisé par le Labo des Désirs à la Friche aussi. Donc on va jouer 2 jours consécutifs avec les élèves. Et c'est très bientôt. C'est la semaine prochaine, en fait.
Tout arrive très vite.
Tout arrive très vite.
Oh, mais attends, c'est la semaine prochaine déjà?
C'est la semaine prochaine.
Oh là là. Ouais. Parce qu'il y a combien d'élèves?
56.
Mmh. Oh, waouh.
Non, il faut savoir quand même que c'est un travail assez monstre parce qu'il y a quand même donc, moins d'instruments que 56, tu vois. Mmh. Et vraiment, c'est impressionnant cette rythme. Et puis, je trouve aussi que... Donc on l'a pas dit, mais dans un cours, on reste pas sur un seul instrument, on change à chaque fois.
Yes.
Et je trouve que ça, c'est aussi très bien parce qu'il y a plein d'instruments auxquels j'avais jamais joué avant, par exemple, ou auxquels avec lesquels je me sens peut-être un peu moins à l'aise. Et en fait, de changer à chaque fois, c'est aussi se challenger et se découvrir d'une autre manière. En fait, comme quoi aussi, à travers un instrument, on se découvre aussi, tu vois.
Tout à fait.
Et donc voilà, il fait quand même... toute la logistique de tous les instruments, c'est quand même, il faut en parler parce que c'est quand même, c'est à trimballer, c'est pas simple.
Non, c'est beaucoup de travail, mais c'est
très bien fait.
C'est ma passion pour l'instant. Du coup, j'essaie de la diffuser le plus possible et de faciliter la diffusion. Du coup, il y a tout un travail en amont, il y a tout un travail de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui est conséquent en effet, qui est fatigant. Mais sans ça, ça marche pas. C'est cool et pour ce coup aussi il y a tout un travail énorme et là beaucoup de musiciens s'impliquent, je pense à Marion qui fait un travail de fou avec moi pour développer le projet, à Louisa qui fait tous les outils de communication, qui a créé le site web, à Yannick qui aide pour la production et la diffusion, à JC, le Djembe Fola qui a produit un concert avec sa compagne, à Jeff qui fait 2h30 de route pour venir répéter tous les vendredis et pour venir jouer, et c'est lui qui est là le premier à chaque concert alors qu'il vient de plus loin que tous les autres. Chacun s'implique à sa façon, chacun amène son aide, met la main à la pâte, et chacun arrive avec son bagage musical et veut le transmettre aux autres.
C'est assez... une grande aventure humaine.
Une très
grande
aventure humaine.
Et qui est créée aussi par toute cette, justement, cet entrain de tout le monde, et ça qui est très beau, quoi.
C'est ça.
Vraiment.
Alors, on arrive à la fin de l'émission.
Ah ouais, déjà, mais ça a été vite en fait.
Ah, tu vois.
Je crois que j'ai beaucoup parlé. Hein.
C'est le but.
C'est le but.
De te faire parler.
Est-ce que on t'a demandé une musique, justement, que tu aimerais diffuser? Est-ce que tu peux nous parler de cette musique?
Alors, c'est le... Donc, je disais, le rythme signé est né en Argentine. Santiago Vázquez a réuni... a réuni des musiciens, enfin de percussionnistes professionnels pour s'essayer au langage. Il a créé le premier groupe de percussion et rythme signé qui s'appelle La Bomba de Tiempo. La Bomba de Tiempo joue depuis 17 ans, tous les lundis à Buenos Aires devant 2000 personnes. C'est complètement fou. Et chaque fois, ils font des concerts nouveaux. Donc je pense que c'est important de leur rendre hommage parce que c'est le premier groupe de rythme signé et c'est de là qu'est née l'effervescence du rythme signé. Donc là, c'est un groupe, c'est un morceau, je pense, c'est Disfrutar en Vivo, qu'on va écouter de La Bomba de Tiempo.
Et tu nous disais que là, on va l'écouter, mais que c'est aussi principalement mieux de le voir en vrai.
Ah, ça
donne une petite, ça attise notre curiosité, mais il faut vraiment venir
concert. Non, c'est plus que se visionner, ça se vit, ça se partage, ça se ressent, ça se danse. Il faut être présent.
C'est juste pour se mettre l'eau à la bouche.
C'est pour se mettre l'eau à la bouche. Et pour le vivre vraiment, venez voir Secousse.
Demain.
Demain.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation. Merci, c'était super.